et ses décibels, toute l'actualité musicale avec ce soir, le mystère des dernières semaines de la vie de Jim Morrison, le chanteur d'un des groupes les plus cultes de la fin des années 60, les Doors. Morrison est mort à Paris le 3 juillet 1971 dans des circonstances qui demandent encore à être éclaircies. Mon invité de ce soir, Yves Bigot, a enquêté. Il y a au moins deux versions de la mort de Jim Morrison qui évidemment sont radicalement différentes. On va en parler avec lui. Jim Morrison, Strange Days à Paris, c'est son nouveau livre qui vient de sortir aux éditions Le Mot et le Reste.
Ici, le Crédit Mutuel donne le la à la musique.
Décibels. Émilie Mazoyer.
Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans Décibels. C'est toute l'actualité musicale, c'est jusqu'à 21h et on y croise les Doors mais aussi la Macarena. Voilà, ça s'appelle l'éclectisme. Les enfants, tout peut arriver dans cette émission, notamment des nouvelles de Jean-Jacques Goldman. Alors non, c'est pas son retour sur scène, mais enfin quand même, il donne des petites nouvelles, alors nous relayons ça avec joie. Un blind test autour de la pluie, car on a remarqué que c'était pas mal d'actualité en ce moment, et les chansons de pluie, il y en a énormément. Alors vous pouvez nous appeler dès maintenant au standard 0810 055 056, le numéro du standard d'ici, où vous attend Yanis ce soir. Et si vous jouez avec nous, vous gagnerez le livre de mon invité Yves Bigot, Jim Morrison, Strange Days à Paris. Et bonsoir Yves Bigot.
Bonsoir Émilie.
Bienvenue dans Décibels. Ah là là, Yves Bigot, un CV absolument incroyable, en plusieurs tomes, hein, vraiment. Vous avez présenté des émissions, Yves, autant à la radio qu'à la télévision. Vous avez aussi été le patron de chaînes, de radio, de télévision. Mais en fait, votre vraie passion depuis le début, c'est le rock'n'roll, malgré tous ces jobs très importants.
Oui, bien sûr.
Oui, hein, c'est ça. Ça n'a pas changé. Alors, dans votre dernier livre, donc Jim Morrison, Strange Days à Paris, qui vient de paraître aux éditions Le Mot et le Reste, vous enquêtez sur ces quelques mois que Jim Morrison a passé à Paris. Et Strange Days, jours étranges, c'est le nom d'une chanson des Doors. Drôlement bien choisi, parce qu'évidemment, il y a une période très étrange de sa vie, Jim Morrison, quand il débarque à Paris. Vous expliquez dans le livre qu'il débarque en deux fois, d'abord en juin 70 et puis ensuite vraiment en 71. Et vous faites d'ailleurs dans le début du livre une salutaire remise en contexte. Il en est où dans sa vie de rockstar, Jim Morrison, quand il débarque à Paris?
Il ne veut plus être une rockstar, justement. Il considère que c'est quelque chose de léger, que c'est trop facile pour lui. Il est tellement beau. Hein, c'est le sex god de Los Angeles, un Adonis, etc. Et puis il dit, j'ai 27 ans, c'est trop vieux pour être une rockstar. Il veut être reconnu comme un poète, comme un écrivain, comme un cinéaste aussi. Hein. Il a fait ses études à UCLA, donc l'université de Los Angeles, dans la section cinéma. Donc il vient à Paris aussi... Donc pour poursuivre ce double rêve du cinéma, hein, il est fan de Truffaut, il est devenu ami avec Agnès Varda et Jacques Demy à Los Angeles, deux poètes sur la trace des écrivains de la génération perdue, hein, Hemingway, Gertrude Stein, Francis Scott Fitzgerald.
Tous à Paris.
Et compagnie. Et puis aussi, il fuit la justice américaine et le FBI qui le poursuit. Il a été condamné dans un procès à la suite d'un concert à Miami où il est accusé de s'être exhibé face au public. Alors, sans preuve, parce qu'il y a plus de 200 photos qui ont été prises ce soir-là et aucune ne montre qu'il aurait montré son sexe. Et on imagine qu'un photographe ne l'aurait pas raté.
Ah bah non. Surtout que d'après ce que disent certaines personnes dans votre livre, c'était difficile de le rater, le sexe de Jim Morrison.
Oui,
Prenait beaucoup de place sur
l'écran. Oui, d'ailleurs, voilà. Les autres membres des Doors disent s'il avait sorti, il aurait trébuché dessus.
Voilà, enfin, voilà, c'est bon, voilà. Ça la citation. Non, mais c'est pour dire... Et vous dites, a priori, vous avez lu tous les rapports et tout, vous dites, il a sans doute ouvert sa braguette et il a mis son doigt pour faire une blague. Et en fait, ça a suffi, en tout cas, à la police pour lui tomber dessus. Mais de toute façon, il l'avait dans le collimateur. Hein. Vous dites que comme c'est un héros de la contre-culture américaine, de toute façon, il n'est pas en odeur de sainteté là-bas.
Le FBI a créé, sous la houlette de son fameux président Edgar Hoover, un programme qui s'appelle Contelpro, et ça c'est officiel, hein, c'est pas du complotisme, qui est destiné à lutter contre les leaders et éliminer les leaders de la contre-culture. Et Jim Morrison est un de ses leaders, il est un des plus provocants, c'est la plus grande rockstar américaine depuis Elvis Presley.
Puis il est férocement antimilitariste aussi. Donc...
Oui, ouais. Il vient de publier un morceau qui s'appelle The Unknown Soldier, avec un clip où il se met en scène comme ça, où il est criblé de balles, comme Saint-Sébastien était criblé de flèches. Et ce procès peut le conduire à un certain nombre de mois de prison dans un des plus dangereux pénitenciers des États-Unis, dans le comté de Dade, en Floride. Et son avocat a reçu des informations selon lesquelles, en fait, le but du FBI, ensuite, ça serait de faire en sorte qu'il soit assassiné en prison. Donc, pour lui, évidemment, fuir, c'est une évidence, et fuir en France, c'est encore plus évident, parce que c'est le pays dont la culture le fait rêver depuis toujours.
Un dernier clou, pardonnez-moi, dans le cercueil de Jim Morrison, alors qu'il n'est pas encore mort, mais qui finalement file vers Paris et donc vers sa mort, c'est une dispute avec les autres membres des Doors au sujet de cet énorme tube. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Yves Bigot, dans son dos, le dos du chanteur, du poète, du groupe, dans le dos de Jim Morrison, les Doors?
Alors, il faut dire que Jim Morrison n'a pas écrit cette chanson Light My Fire, qui est de la plume du guitariste Robbie Krieger. Et donc, pendant que Jim est parti à Londres rechercher son infernal petit ami...
Vous la détestez. Hein. Alors, il y a tous les qualificatifs dans ce bouquin. C'est vrai, vous l'aimez pas, Pamela Courson.
C'est pas tellement moi, hein, c'est tout l'entourage de Jim Morrison à l'époque, son entourage parisien, aussi bien que son entourage californien.
L'infernal, vous l'appelez.
Et oui, parce que d'abord c'est une junkie, et ensuite elle passe son temps à lui échapper, elle le trompe avec son dealer, qui est aussi donc son amant, qui est un franco-marocain, du nom de Jean de Breteuil, qui est un personnage absolument incroyablement sulfureux.
Oui, donc Jim s'était absenté.
Voilà, et pendant qu'il n'est pas là, ben les trois autres Doors et leur manager acceptent la proposition des voitures Buick de utiliser Light My Fire dans une publicité télévisée. Comme Jim n'a pas écrit cette chanson, il ne voit pas pourquoi il serait contre. Sauf que Jim, c'est un hippie. Et que les Doors ont décidé, dès leur début, de tout partager en quatre parts égales, quelle que soit la contribution de chacun. Et quand Jim revient, il est absolument furieux parce qu'il estime que leurs idéaux ont été trahis en cédant à la publicité, donc à ce qui à l'époque est l'établissement commercial américain.
Ouais, c'est terrible pour lui, c'est vraiment c'est un affront. Donc, voilà pour le contexte. Jim Morrison, oui, rockstar, mais plus envie de l'être, fâché avec son groupe et à la colle avec Pamela Courson, qui a un stock de conneries quasiment illimité à faire. Tout ça arrive à Paris, les Strange Days, les jours étranges de Jim Morrison à Paris vont commencer. Yves Bigot le raconte fort bien dans son livre, et on continue, nous, à en parler après avoir écouté un des tubes du tout premier album des Doors et une des chansons les plus dingues de l'année 1967, Break On Through. You know the day destroys the night, night divides the day. Chased our pleasures here, dug our treasures there. Est-ce que ce serait pas une chanson parfaite? Je me tourne vers l'expert Yves Bigot. Elle est parfaite, non, cette chanson?
Absolument. C'était le premier single de toute la carrière des Doors. C'est un morceau performatif, hein, puisque c'est il faut traverser le miroir. Hein.
Ouais. Jusqu'à l'autre côté, Break On Through, premier album des Doors, sobrement intitulé The Doors, et donc la voix, l'aura, le charisme de Jim Morrison, donc qui nous occupe ce soir, ce Jim Morrison qui est venu mourir à Paris, qui est enterré au Père Lachaise. Vous êtes allé lui rendre visite déjà au Père Lachaise?
Oui, bien sûr. Ouais. Alors j'y suis retourné à l'occasion évidemment de la rédaction de cet ouvrage. J'étais allé le filmer pour différents documentaires pour la télévision, etc. C'est la tombe la plus visible du Père Lachaise, qui pourtant accueille un nombre de sommités incroyables.
Mais Jim Morrison, voilà, c'est quelque chose. Et puis il y avait eu aussi, il y a quelques années, le buste de Jim qui avait disparu, puis qui a été retrouvé, qui a été replacé.
Il y a des histoires incroyables.
Hein. Ouais.
Il y a deux Américains qui ont essayé de déterrer son cercueil pour le voler, l'emporter. Enfin, je veux dire, il y a un culte assez sombre, d'ailleurs assez noir, hein, autour de la tombe de Jim Morrison, d'ailleurs, qui a même le sol. Hein.
Oui, oui, oui. Alors, de toute façon, Jim Morrison, pas forcément les Doors, parce que les autres gars du groupe n'avaient pas du tout cette vibration-là, mais Morrison, il y a quand même un côté, alors je n'irais pas jusqu'à dire sataniste, mais enfin, il faisait quand même, je sais que j'ai lu dans votre livre, et puis on le voit aussi dans le film d'Oliver Stone, où Val Kilmer joue le rôle de Jim Morrison, d'ailleurs, je trouve assez merveilleusement, une espèce de cérémonie où il épouse une sorcière avec un mélange de sang, enfin, il était quand même dans ces trucs-là. Là, un peu bizarre, Morrison.
Il était intéressé, alors oui, par l'occulte, mais en fait, ouais, pour pousser l'enveloppe, en fait, de tout remettre en question.
Ouais, d'accord.
Sur scène, il voulait absolument briser le fameux quatrième mur. Il adorait le Living Theater. Et puis, il cherchait sur scène, il cherchait à briser le statu quo. Il aurait été ravi qu'il y ait une émeute après ses concerts. Voilà, oui, c'était quelqu'un d'extrêmement disruptif, révolutionnaire. Hein. On peut dire, dans une période où l'Amérique était révolutionnaire, on a du mal à s'y projeter aujourd'hui, mais en 1968, 1969, 70, l'Amérique est à deux doigts de basculer dans la révolution.
Alors finalement, il va venir faire sa révolution à Paris, Jim Morrison. Donc il arrive en 1971 pour rejoindre sa chérie Pamela Courson.
Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game.
L'infernal Pamela Courson, comme vous l'appelez, Yves Bigot, dans votre livre, qui donc le mène par le bout du nez, parce qu'en fait, il est quand même très très amoureux d'elle, et il la suit, la piste un peu partout dans le monde. Et là, à Paris, donc, elle vit à moitié avec un type que nous, on ne connaît pas, mais que vous avez bien observé, sur lequel vous avez beaucoup enquêté. C'est donc ce Breteuil, qui est un type qui est un dealer, alors en plus de sinistre réputation, puisqu'on dit que c'est lui qui a vendu la dose fatale qui a tué Janis Joplin.
Oui, ça a été vérifié.
Hein,
il a été vu quelques courtes heures avant dans le motel où était Janis, puis il a fui les États-Unis tout de suite après. Jean-Charles Marie, le tonnelier de Breteuil, comte de Breteuil.
On dirait un nom de guerre, c'est son vrai nom.
C'est son vrai nom.
Incroyable.
Son père a été le fondateur de toute la presse francophone en Afrique, donc il a fait fortune. Il est cofondateur de l'Express, Croix de Guerre, compagnon de Charles de Gaulle. Et il a acquis avec son épouse, Boule de Breteuil, la Villa Taylor, qui est un endroit incroyable à Marrakech, qui maintenant est dans la ville, mais qui à l'époque est à l'extérieur de Marrakech. Ça a été classé monument historique depuis. La Villa Taylor avec son donjon absolument incroyable. Et donc ce fils grandit là au milieu de Winston Churchill, Picasso, enfin des gens absolus, Brian Jones, Brian Goising, etc. Des gens comme ça. Et il est envoyé comme étudiant dans une famille donc richissime, hein, à UCLA, et il devient dealer à Los Angeles d'opium et de hashish, qui lui arrive donc directement de Marrakech, le Maroc, son pays, via le chauffeur marocain du consulat de France à Los Angeles.
C'est magnifique.
Déjà,
ah, ces valises diplomatiques.
Et déjà, est déjà pas mal. Et il va devenir, en fait, le, il a tout juste 20 ans, hein. Il va devenir le dealer des stars, donc de Janis Joplin, de Pamela Courson. Il sera le compagnon et le dealer de Marianne Faithfull, avec qui il vit au moment d'ailleurs de la mort de Jim Morrison. Il est aussi le dealer des Rolling Stones quand ils sont dans le sud de la France, à Villefranche-sur-Mer, où ils enregistrent le double album Exile on Main Street.
À la Villa Nelcote, la fameuse.
Exactement, ouais. Au-dessus de Villefranche-sur-Mer. Et évidemment, il travaille avec la French Connection et puis aussi avec les producteurs marocains.
Et donc lui, il fait partie de l'écosystème parisien de Jim Morrison.
Et lui, ben, à travers Pamela Courson, qui ouais. donc est sa maîtresse, c'est lui qui l'accueille quand elle arrive à Paris un mois avant Jim pour préparer l'arrivée de Jim à Paris. Et elle va se maintenir comme ça dans cet équilibre en fait entre ces deux personnalités, son double cosmique qui est Jim Morrison et puis ben, son dealer dont elle a besoin, elle est héroïnomane. Hein. C'est un personnage assez incroyable. Pamela, elle est très jeune. Hein. Quand Jim meurt, elle a 24 ans. C'est une très très belle petite rousse aux yeux bleu-vert. Elle a rencontré Jim au tout début des Doors, quand ils se produisent au London Fog, un club minuscule de Los Angeles qui n'est pas plus grand que votre ouais. studio ici à France Bleu, Émilie. Et donc, Jim a une passion pour elle qui, au moment où ils arrivent à Paris, est plus de l'ordre d'ailleurs paternel oui. que véritablement amoureux. Les quelques témoins français, dont Philippe Dalecki, le guitariste que j'ai rencontré, me disent « mais ils couchaient plus du tout ensemble à cette époque-là ». Mais Jim se sentait totalement responsable d'elle, parce qu'elle avait cru en lui quand il était rien, et elle était la seule personne qui le comprenait.
Alors vous racontez dans le livre, on va pas évidemment révéler toutes les anecdotes, mais il a fait des trucs, pas qu'à Paris d'ailleurs, en France, Jim Morrison. Il a notamment assisté au tournage d'un de nos grands films musicaux cultes, vous lirez ça dans le livre d'Yves Bigot. Lui, Jim, n'est pas héroïnomane, en revanche, ça picole. Show me the way to the next whiskey bar. Whisky bar, Alabama Song des Doors. Alors oui, ça boit du whisky, de la bière. Voilà, il a une vraie addiction à l'alcool, Jim Morrison. Et donc, sa vie parisienne, c'est se balader, essayer quand même de visiter des endroits comme tout bon Américain fan de littérature et d'art, picoler, voir ses copains. Donc vous citez, oui, Agnès Varda, Jacques Demy. Et en fait, c'est assez calme, sa vie parisienne. On se dit pas, il va mourir dans 3 semaines.
Non, c'est vrai qu'il boit beaucoup, mais vous l'avez dit, il participe beaucoup de la vie culturelle française, ouais. Il va énormément au cinéma, c'est un fan de cinéma alors qu'il ne parle pas français, mais il va voir les films, plusieurs films par jour, il se promène beaucoup dans Paris, il s'arrête aux terrasses des cafés les plus célèbres de Paris, hein. Ça va de la Palette au Flore, ouais. Les Trois Magots.
Il dit qu'il va chez les bouquinistes aussi, enfin voilà, tout ça, ça l'intéresse,
oui, bien
il va être sur les quais, dans le Marais.
Il achète du fromage, des fraises, etc., des bijoux pour Pamela. Et puis, il se rend une quinzaine de fois dans le club le plus célèbre d'Europe continentale à l'époque, le Rock'n'Roll Circus, où il va faire la connaissance, notamment alors, du patron Sam Bernett, mais aussi de Johnny Hallyday, de Richard Bohringer.
Alors, avant de vous raconter les deux théories, au moins deux théories, peut-être que Yves Bigot, il en a une rien qu'à lui, sur la mort de Jim Morrison, que s'est-il passé ce soir-là à Paris? Est-ce que c'était chez lui? Est-ce que c'était dans ce fameux Rock'n'Roll Circus? Je propose qu'on écoute Love Me Two Times, parce que les Doors, ça fait jamais de mal. Vous avez une préférée, vous, Yves?
De chansons des Doors.
Ouais, des Doors, c'est dur, hein.
C'est difficile. Il y en a ouais. tellement. The End, des femmes absolument formidables. Riders on the Storm, LA Woman.
Vous choisissez que des chansons qui font plus de 6 minutes. Vous avez oublié la radio, on peut plus.
Alors, The End, Emily, à la version courte,
hein,
avec les hélicoptères d'Apocalypse Now.
C'est vrai. Vous avez raison. Et moi, Love Me Two Times, j'aime bien.
C'était un de leurs tubes.
Et puis, comme ça, on peut revenir sur le côté très sexy de Jim Morrison qui, si vous allez voir les photos, effectivement, était parti depuis un certain temps quand il était à Paris. Love me two times, baby. Love me twice today. Love me two times, girl. Love Me Two Times et Jim Morrison qui nous intéresse ce soir dans l'excellent bouquin d'Yves Bigot, Jim Morrison, Strange Days à Paris aux éditions Le Mot et le Reste. Et cette question, Jim Morrison est mort à Paris le 3 juillet 1971. Oui, mais comment? Vous allez le savoir, à tout de suite.
En 2003, la famille Flactif est tuée dans son chalet du Grand Bornand. Dans cette affaire qui a bouleversé la France, c'est la science qui a permis de faire éclater la vérité.
Découvrez les témoignages inédits des experts qui ont fait parler le chalet dans deux épisodes exceptionnels de Crimes et témoignages. La série de podcasts d'ici.
Affaire Flactif. Les experts qui ont fait parler le chalet.
À écouter dès maintenant sur la plateforme Radio France et sur l'appli ICI.
ICI partenaire. En février, ICI aime le magazine Cuisine Actuelle. Une cuisine gourmande, saine et accessible pour toujours plus de plaisir et de découvertes. Chaque mois, retrouvez des producteurs et des artisans locaux passionnés, des saveurs authentiques et des recettes originales. Ce mois-ci, direction les marchés de Bourgogne, à la découverte des meilleurs produits régionaux et de saison. Un événement ICI.
ICI, chaque soir, toute l'actu musicale est dans Décibels. Émilie Mazoyer.
De bonnes nouvelles de Jean-Jacques Goldman, un blind test autour des chansons de pluie. Et puis Louisa nommée demain soir aux Victoires de la musique. Louisa, vous connaissez Soleil Bleu, évidemment, le tube de l'été dernier, mais elle vient de sortir une nouvelle chanson très jolie, Mania des Carnavals. On va écouter ça tout à l'heure. Et puis, en ce qui concerne l'anniversaire, je ne vous en dis pas plus, mais sachez que vous allez danser, ressortir une de vos meilleures chorés. Tout ça, c'est la suite de Décibels jusqu'à 21h. Mais on a un gros dossier de Jim Morrison sur le feu avec mon invité Yves Bigot. On y retourne. Vous avez enquêté, Yves Bigot, pour votre livre Jim Morrison's Strange Days à Paris. Vous avez enquêté donc sur les circonstances de la mort de Jim Morrison. Alors, je me fais toute innocente ici en vous posant la question, mais pourquoi est-ce qu'il y a un mystère autour de la mort de Jim Morrison? On est d'accord sur la ville, Paris, on est d'accord sur la date, 3 juillet 71. On n'est pas exactement d'accord sur le lieu, c'est ça?
C'est encore plus compliqué que ça, puisque vous avez des gens qui, aujourd'hui, pensent que Jim Morrison est toujours vivant.
Oh.
D'ailleurs, il y a un documentaire sur Apple qui dit qu'en fait, on a retrouvé Jim Morrison dans l'État de New York, à Syracuse, grâce à un post sur Facebook.
Non, j'adorerais, il serait sur une île avec Elvis.
Non, mais justement, cette mort déclenche tous les fantasmes. C'est les fantasmes de Rimbaud à Aden, de Gauguin dans le Pacifique, Jim Morrison qui voulait fuir justement son statut de rockstar et l'Amérique. Voilà, serait parti vivre en Afrique ou dans le Pacifique.
Ouais.
Bon, il est vraisemblablement bien mort et bien enterré au Père Lachaise, mais les circonstances de sa mort sont incroyablement troubles et peu claires. Alors, la version officielle, c'est qu'il va au cinéma avec sa compagne, donc Pamela Courson. En sortant du cinéma, ils vont dans un restaurant asiatique, puis ils rentrent chez eux, 17 rue Beautreilly, 3e étage droite.
Oh, vous êtes allé voir l'appartement? On peut pas, non, c'est chez quelqu'un.
C'est chez quelqu'un. Alors, j'y suis pas allé récemment, mais j'y étais allé pour un documentaire filmé à l'intérieur. Appartement très bourgeois du 4e arrondissement.
Donc, il rentre chez lui.
D'après Pamela, ils visionnent les films des vacances parce que pendant leur séjour à Paris, ils sont allés à Londres, ils sont allés en Corse, ils sont allés en Espagne, ils sont allés à Marrakech, dans la Villa Taylor, de la mère, donc du fameux Jean de Breteuil dont on parlait tout à l'heure. Et puis, ils vont se coucher, à un moment, Jim se réveille, il va pas bien, il a des problèmes pour respirer, etc. Bref, il part dans la baignoire prendre un bain pour voir si ça va mieux, Pamela se rendort, elle se réveille, il vomit, ça va pas, mais il lui dit, t'inquiète pas, elle retourne se coucher, et quand elle se lève, elle le trouve mort dans la baignoire.
Donc ça, c'est la version officielle.
Ça, c'est la version officielle qui sera validée par... alors, la version, en tous les cas, sa mort dans la baignoire, c'est les pompiers qui le sortent de la baignoire, qui essaient de le ranimer, mais c'est trop tard, il est mort. C'est la version que donnent Agnès Varda et Alain Ronet, qui est l'ami franco-américain de Jim Morrison, qui habite chez Agnès Varda. Ils travaillent sur le scénario du dernier tango à Paris, ensemble. Et c'est celui qui sera validé par la police qui délivrera le permis d'inhumer.
Ah ouais.
Donc, crise cardiaque la baignoire. Voilà, à 27 ans.
Après, il y a un monsieur qu'on connaît tous, d'ailleurs vous l'avez déjà entendu dans Décibel, il s'appelle Sam Bernett, grand animateur radio, et donc vous l'avez cité tout à l'heure, directeur artistique du Rock'n'Roll Circus, ce club rock parisien, et lui il a une autre version.
Oui, et où Jim Morrison donc s'est rendu très souvent, manger du chili con carne avec Johnny Hallyday en parlant de cinéma toute la nuit, buvait des vodkas et des bières au bar avec Richard Bohringer en essayant de se parler parce que l'un parlait pas anglais et l'autre pas français. Donc, voilà, mais ils arrivaient à trouver moyen d'échanger. Et ce que raconte Sam Bernett, et tout porte à croire évidemment que c'est la bonne version, c'est que Jim serait arrivé passé minuit au Rock'n'Roll Circus. Sam l'accueille en bas des marches comme d'habitude, lui donne sa bouteille, et puis Jim est très nerveux, il regarde sa montre plein de fois, et puis il regarde l'escalier d'où doivent descendre donc des personnes, et puis arrivent deux personnes, donc des dealers connus comme tels, qui lui disent la livraison de Pam est arrivée. Et plus tard, la vestiaire du Rock'n'Roll Circus vient voir Sam en disant « Sam, quelqu'un est enfermé dans la porte des toilettes hommes et depuis une demi-heure et on a beau tambouriner, voilà, on n'arrive pas à ouvrir. » Et il n'y a que Sam qui peut prendre la décision de faire fracasser la porte et ouvrir. Et quand c'est le cas, Ben, il découvre Jim Morrison, qui est donc assis sur le trône des toilettes, la tête entre les genoux, donc il prend délicatement sa tête entre ses mains, la relève, la voit un filet de bave qui rose qui coule au coin de sa bouche, et un regard assez vide. Il fait appel à un médecin qui est un client de la boîte, hein, qui vient là régulièrement, et ce médecin l'examine et dit « cet homme est mort, il n'y a plus rien à faire ». Là-dessus, les deux dealers débarquent et disent « mais pas du tout, il a l'habitude, nous on, il fait ça tout le temps, vous inquiétez pas, on s'en occupe, hop 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 ». Ils l'emmènent et ils l'embarquent dans une voiture alors qu'ils sortent par l'Alcazar, qui est donc un club qui se situe au-dessus
du Rock'n'Roll
Circus, et ils sortent par la rue Mazarine alors qu'il y a une rue qui est à sens unique et qui est beaucoup plus discrète, on va dire, que la rue de Seine, qui est très passante, où est l'entrée officielle du Rock'n'Roll Circus. Et là, ces dealers emmènent donc le cadavre de Jim Morrison rue Beautreilly, donc l'appartement qu'il occupe avec Pamela Courson, le mettent dans la baignoire. Là aussi, il y a encore tout un tas de choses mystérieuses. Alors, pourquoi le mettent-ils dans la baignoire et mettre de l'eau chaude? C'est pas pour essayer de le réveiller, mais du coup, ça va masquer l'heure de la mort. Donc, pour eux, ils ont besoin de couvrir leurs traces, oui, évidemment, parce que s'il y a une enquête, ils risquent d'être inquiétés, c'est eux qui ont vendu la dose mortelle à Jim Morrison. Et à partir de là, tout va se raconter de vrai et de faux. Par exemple, la biographie la plus connue américaine, celle de Stephen Davis, raconte que quand les pompiers sont arrivés, ils auraient dû casser un carreau de la salle de bain pour pouvoir entrer. Donc ça voudrait dire que Jim s'est enfermé
dans la salle de bain tout seul.
Tout seul, donc il était vivant.
Ouais.
Quand il l'a fait. Mais rien ne corrobore ça. Ça, c'est ce qui aurait été raconté. Alors, selon vraiment l'enquête très difficile à faire, hein, parce que d'abord un grand nombre de protagonistes sont décédés aujourd'hui, et puis ensuite tout le monde a menti dans cette histoire. Et on est à une époque, au printemps 1971, où le journalisme d'investigation n'existe quasiment pas à Paris, et en plus, personne ne sait quasiment que Jim Morrison est à Paris, il est là incognito. Que ça soit les pompiers, les médecins légistes ou la police qui vont venir entendre dire que ce James Douglas Morrison, ils n'ont pas la moindre idée de qui il s'agit, c'est juste un citoyen américain. Eux, ils n'ont pas idée qu'on en parlera encore aujourd'hui,
oui,
vous
ça.
Et moi.
Ouais. Et que c'est un des plus célèbres du club des 27. Voilà,
exactement, et donc ils vont totalement bâcler l'enquête. Donc, ce qui s'est vraisemblablement passé, c'est que quand Pam découvre Jim Morrison inanimé, sans doute mort, déjà dans sa baignoire, donc amené par les dealers déjà morts, elle appelle Jean de Breteuil, en douce, au secours.
Eh oui, au secours mon dealer. Ouais.
En plus, elle ne parle pas français, Pamela, ouais. Donc de toute façon, elle est totalement démunie pour ce qu'il faut faire. Et Jean de Breteuil serait venu à ce moment-là, et c'est lui qui raconte cette histoire de vitre brisée. Mais pour couvrir le fait que Jim était déjà mort, ouais, et pour se couvrir lui-même, puisque, en fait, tout de suite après, devoir fuir à Marrakech chez sa mère, se cacher pour être au Maroc, et donc non extradable. Avec Marianne Faithfull, qui était sa compagne, avec qui il vivait à l'hôtel, le fameux hôtel de la rue des Beaux-Arts. Donc très vraisemblablement, Jim Morrison est effectivement mort dans les toilettes du Rock'n'Roll Circus et a été ensuite conduit dans la baignoire de la rue Beautreilly. Maintenant, ce qui est toujours incompréhensible aujourd'hui, c'est pourquoi Jim Morrison, qui détestait l'héroïne, qui n'en avait jamais pris de sa vie, qui luttait contre, qui n'arrêtait pas de lutter avec Pamela, sa compagne, pour qu'elle
cesse
de se droguer. Il avait dit à Alain René, dans l'après-midi qui précède sa mort, il avait dit, tu sais, ne t'inquiète pas, si Pamela parle de suicide, elle a choisi la mort, alors que toi et moi, nous avons choisi la vie. Or, c'est lui qui va mourir ce soir-là. Donc, ça n'a aucun sens qu'il ait pris de l'héroïne comme ça dans les toilettes du Rock'n'Roll Circus. Ça n'a absolument aucun sens. Pourquoi l'a-t-il fait? Ou pourquoi l'aurait-il fait? Je suis incapable de le savoir. Et quant à savoir quelle est la bonne version, ben on a tout porte à croire que c'est la version bien sûr de Sam Bernett qui est la bonne, parce que elle s'oppose à la version de Pamela Courson qui est une junkie. On sait bien que les junkies ont tendance à raconter n'importe quoi, à vivre dans le fantasme et surtout à vouloir couvrir leur propre vice. Après, il y a encore un dernier élément. Malgré tout, qui m'a été donné par Robbie Krieger, le guitariste des Doors, et qui m'a dit, mais Jim Morrison, sans doute, ce qui explique à la fois son alcoolisme et son mode de vie extrême, qu'on peut considérer comme étant suicidaire, et qui peut expliquer aussi qu'il ait pu mourir de mort naturelle, finalement, dans les toilettes du Rock'n'Roll Circus, c'est qu'il souffrait de rhumatisme articulaire. Alors, ça n'a rien à voir avec l'arthrose ou avec des rhumatismes normaux, c'est une maladie cardiaque, et souvent, les gens qui en souffrent meurent avant leurs 30 ans d'une insuffisance cardiaque. Donc, il y a aussi cette possibilité que, comme il n'y a pas eu d'autopsie, on ne saura jamais, mais qu'il soit mort ce soir-là, juste d'un arrêt cardiaque sans lien avec le fait qu'il aurait consommé l'héroïne qu'il avait achetée pour Pam.
Ou alors, bien vivant et bien heureux sur une île, la fin, The End, c'est le nom du chapitre dans votre livre, Yves Bigot. Vous le lirez, The End, et vous vous ferez une idée. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end. Je vous recommande la lecture de Jim Morrison, Strange Days à Paris, par Yves Bigot, aux éditions Le Mot et le Reste. Et je me disais, Yves, comme vous racontez super bien et que vous avez enquêté là-dessus, on ferait pas un bouquin sur cette horreur de Breteuil, là? Parce que être dans les parages à la mort de Janis Joplin, à la mort de Jim Morrison, faudrait déjà qu'on vérifie ce qu'il faisait le jour de la mort de Brian Jones, peut-être.
Il y a un romancier qui s'appelle Philip Will, qui effectivement, mais alors qui en le fictionnant,
qui a raconté
voilà,
ça.
Voilà, qui dit qu'il aurait été là aussi pour la mort de Brian Jones. Et puis qu'il était un peu en mission pour qu'il arrive la même chose à Keith Richards.
Mais pardon, hein, mais moi je le connaissais pas, ce Jean de Breteuil. Il est mort.
Oui, il est mort. Ah bon, il est mort assez rapidement, à l'âge de 22 ans, à Tanger, sa ville natale.
D'accord.
Oui, bien sûr, Émilie, vous avez raison. Il mérite un film, il mérite un livre.
Oui. Déjà, il méritait de mourir, mais donc c'est fait. Le temps s'en est chargé. Mais...
voilà, il y a eu ce roman de Philip Will. Mais c'est très difficile d'enquêter sur lui. J'en ai parlé avec Philippe. J'ai essayé moi-même de trouver beaucoup de documents. Il était visiblement extrêmement protégé. Peut-être même manipulé, voire par les services français, mais sans doute plus de manière certaine par la CIA, justement pour cibler les rockstars et les leaders idéologiques de la contre-culture anglo-saxonne. Et beaucoup, beaucoup de documents ont disparu, on ne trouve pas, on a du mal à suivre sa piste, etc. Donc on voit qu'on est dans vraiment le roman noir de ces années-là. Et en tous les cas, c'était quelqu'un qui était de toute façon extrêmement protégé.
Bon,
mais oui, peut-être. Si quelqu'un est capable de le faire, en tous les cas, je le lirai
vous
volontiers.
Vous n'avez pas envie.
Si, moi j'en meurs d'envie, mais je vous dis, on a beaucoup de mal à trouver plus que ce qui figure dans mon livre.
Bon, s'il y a des gens très sympathiques de la famille Breteuil qui nous écoutent et qui ont des infos à faire passer à Yves Bigot, écrivez à la rédaction qui transmettra. Yves Bigot, merci. Comme d'habitude, c'était superbe.
Mais merci beaucoup à vous, Émilie.
Et bravo à votre éditeur, Le Mot et le Reste. Décidément, que de beaux choix éditoriaux. À bientôt, Yves.
À bientôt, Émilie. Merci encore.
Ici, à 20h, toute l'actu musicale est dans Décibel.
Allez, une belle histoire maintenant et des nouvelles de Jean-Jacques Goldman. Bah oui, après l'histoire tragique de Jim Morrison, ça fait pas de mal. C'est l'histoire d'une jeune lycéenne qui s'appelle Thaïs Jacquemin. Elle a 17 ans, elle a un prof qu'elle adore. Le prof s'appelle Mathieu, il est prof d'histoire géo au lycée Stéphane Hessel à Toulouse. Et ce prof cite souvent Jean-Jacques Goldman dans ses cours, des citations, de chansons, etc. Thaïs et les autres élèves, ils trouvent ça vraiment chouette et du coup, Thaïs, elle a écrit à Jean-Jacques Goldman en lui disant « Mon prof est fan », elle lui a fait une petite lettre manuscrite, etc. Et Jean-Jacques Goldman l'a lu et Jean-Jacques Goldman a écrit au professeur Mathieu Pourri pour son anniversaire. Alors, le prof a partagé cette lettre avec le quotidien L'Union. Donc, je vous lis la lettre, une partie de la lettre. Jean-Jacques Goldman dit « Bon anniversaire Mathieu, merci à ta tâche chaque jour de changer tant de vie. » Évidemment, c'est une citation, une auto-citation de la chanson « Il changeait la vie ». Merci aussi pour ton estime qui me touche beaucoup. Et bonne route en Tchéquie, puisque c'était un voyage que ce prof d'histoire géo allait entreprendre avec toute la classe. Voilà. Et puis un petit clin d'œil à l'adorable Thaïs, cette étudiante qui a décidé de faire plaisir à son prof, qui peut-être, oui, changeait sa vie. Comme dans les paroles de cette chanson incontournable des années 80, Jean-Jacques Goldman, un vrai mec bien, hein, rien à dire.
Hein. C'était un cordonnier, sans rien de particulier, dans un village dont le nom m'a échappé. Il faisait des souliers, si jolis, si légers, que nos vies semblaient un peu moins lourdes à porter. Un simple professeur qui pensait que savoir était un grand trésor. Tous les moins que rien n'avaient pour s'en sortir que l'école et le droit qu'à chacun de s'instruire. Il y mettait du temps, du talent et du cœur. Ainsi passait sa vie au milieu de nos heures. Et loin des beaux discours, des grandes théories, à sa tâche chaque jour, on pouvait vivre de lui. Un tout petit bonhomme, malhabile et rêveur, un peu loupé en somme, se croyait inutile, banni des autres hommes. Il pleurait sur son saxophone.
Du synthé années 80 comme on en entendait qu'à l'époque, mais le réécouter en 2026, c'est un vrai délice. Il changeait la vie. Goldman était sur votre radio ici.
Ici, tous les soirs à 20h, c'est Décibel.
Le thème du blind test de ce soir, la pluie. Écoutez, c'est de saison, hein, le mois de février. On se fait doucher plusieurs fois par jour. Oui, je sais pas, dans toutes les régions de France. Je vous entends chez vous. Il n'y a pas de micro chez vous, mais je vous entends dire non, pas du tout, chez moi. Il y a eu soleil toute la journée. Profitez-en, bande de vénères, mais on va dire que quand même, c'est une saison à pluie et c'est une soirée blind test autour de la pluie, donc, puisque c'est quand même un thème qui inspire énormément de chanteurs et de chanteuses et de groupes. Alors, pour jouer avec nous au blind test de la pluie, il y a Guy. Bonsoir Guy.
Bonsoir.
Bienvenue dans Décibel, cher Guy. Ça va bien?
Oui, oui, impeccable.
Tant mieux, Guy. Il y a aussi Francis avec nous. Bonsoir Francis.
Bonsoir.
Comment
bonsoir
ça va?
Bah très bien, il y a du soleil donc ça va.
Ah voilà, j'en étais
sûre. Et puis le PSG a gagné, excusez-moi, je fais une aparté.
Ah alors après, moi, je n'y connais rien, mais je me réjouis quand les supporters se réjouissent. Donc Francis, c'est une belle journée de supporters.
Voilà, c'est ici Paris quand même. Donc,
mais oui.
Donc je le dis, voilà, je le dis avec bonne humeur.
Formidable, voilà. Bravo. Moi je crois que la dernière fois que j'ai regardé un match du PSG, il y avait Bernard Lama dans les cages, c'est pas grave.
Ah oui, bah, ça remonte.
J'avoue. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'à un moment, j'ai été un petit peu amoureuse de Francis, comment il s'appelait, celui qui avait plein de tatouages là?
Alors, plein de tatouages, mais. Alors, il y en a eu plein.
Oui, Zlatan. Ah, c'est Zlatan. Oh là là.
Voilà.
Zlatan. Ça me faisait des émotions à chaque fois qu'il le filmait en gros plan. Alors voilà, c'est ça le dernier match de foot que j'ai vu, c'est Zlatan. Ça
oh, bah, c'est pas si tard.
C'est pas, voilà.
C'est quand même
ça va.
Voilà, là, ça va. Là, ça va.
Bon, Francis et Guy, bonne nouvelle. Vous avez chacun gagné un exemplaire du livre d'Yves Bigot, Jim Morrison, Strange Days à Paris. C'est donc les derniers jours de la vie de Jim Morrison. Vous savez qu'il est mort à Paris, le chanteur des Doors. Il est enterré au Père-Lachaise.
Donc,
c'est une enquête sur qu'est-ce qui s'est passé pour que ce bon vieux Jim Morrison meure à Paris à l'âge de 27 ans. Et on vous en offre à chacun un exemplaire pour vous remercier de jouer avec nous.
Eh ben merci beaucoup déjà.
Avec joie. Donc maintenant on joue. Je vous mets des chansons qui parlent de pluie et il faut retrouver le plus rapidement possible le nom des interprètes. Ok?
Oui.
Allez, Guy, Francis, petit point de règlement. Quand vous avez la réponse, vous me donnez votre prénom pour prendre la main.
Ok.
Puis vous proposez votre réponse. Guy, Francis, première chanson de pluie. Celle-ci est très récente. Dites-moi qui chante ça. Il y a déjà de la pluie au début et après ça chante.
Il a plu dans la chambre. Est-ce que c'est tes mains ou juste en bout de toi qui part?
Je crois que non, j'ai plus le nom. C'est connu, mais
je vous donne. Je vous donne un indice. Elle a représenté. Elle a représenté la France à l'Eurovision l'année dernière avec sa chanson Maman.
Guy.
Francis.
Ah, Louane.
Eh ben, vous avez raison, tous les deux, c'est Louane. Ah ben voilà, c'était Louane. Voilà, alors, il faut pas me... Bon ben, on continue alors, les amis. Avec un point pour Guy, un point pour Francis, ils ont tous les deux trouvé Louane. Deuxième extrait. C'est un groupe... britannique...
Guy. Super Tramp.
Ça fait deux points pour Guy qui a trouvé Super Tramp. Toujours un point pour Francis. Alors après Louane et Super Tramp, quelqu'un d'autre a chanté La pluie, une voix féminine bien connue.
Il a plu sur Nantes.
Guy.
Barbara.
Oui.
Il a plu sur Nantes.
Oh là là, bon, c'est pas la plus joyeuse, je vous l'accorde.
Ah ouais, non.
Mais c'est très beau, écoutez, c'est comme ça, c'est magnifique. Guy a donc 3 points, Francis avait 1 point, mais je lui triple évidemment son score, car Francis, ça rime avec saucisse, et c'est quand même mon plat préféré, ce qui fait qu'avec 3 partout,
voilà,
tout le monde a gagné, bravo.
Merci.
Merci à vous, merci, je suis ravie qu'on ait joué ensemble, Guy et Francis, je vous remercie beaucoup, et je vous propose de terminer ce blind test de pluie avec Orelsan et Stromae. La pluie.
Je viens de la France où on danse la chenille, où on prend plus de caisses que des crash tests demi. J'ai des potes diplômés, d'autres qui ont pas lu de livres, qui sont sûrement sur un mur et dans les rues du centre-ville. Mon père a gravi les échelles pour devenir ce qu'il voulait être. Ma mère est la ménagère à qui les publicitaires veulent la mettre. Je connais la campagne et ses gros sabots, où ça vole pas haut, les ragots et les oiseaux. Toujours autant de pluie chez moi. Toujours autant de pluie chez moi. Il fait beau chez moi. gens du milieu, où y a plein de petits vieux, où chômage et la tisane forment un cercle vicieux, où on critique les invités qui viennent de partir. C'est pas qu'on est lent, c'est qu'on prend notre temps pour réfléchir. Je viens de la classe moyenne, moyennement classe, où tout le monde cherche une place, une lumière claire dans le monospace. Je freestyle est dans ma tête sur le bruit des essuie-glaces. Y a la pluie en featuring dans toutes mes phrases.
Toujours autant de pluie chez moi, mais il fait quand même beau.
Moyen du soleil 40 jours par an. Tu peux passer la plupart de l'année à l'attendre. Je regardais par la fenêtre enfermée dans ma chambre. Je priais pour la fin de l'averse et aller faire de la rampe. Je connais que le bruit de la pluie, l'odeur du béton mouillé. Si je suis parti, c'est parce que j'avais peur de rouiller. Trempé, j'aurais jamais pensé que le mauvais temps finirait par me manquer.
Il fait quand même beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau. Chez moi, il fait beau.
Moi, cette chanson. Je suis sûre que si vous venez de ce coin-là, Caen, etc., ça doit vous faire des émotions. Quand vous entendez la pluie, Aurel San avec Stromae. Aurel San nommé demain soir aux Victoires de la Musique, deux nominations, album de l'année pour son nouveau La Fuite en Avant, et puis artiste masculin de l'année. On continue, Décibel, avec une autre artiste nommée aux Victoires, elle, dans la catégorie chanson originale de l'année. Elle s'appelle Louisa, et normalement, elle vous a bien fait danser.
Laissez-moi vivre comme je veux, les pieds dans l'eau et la tête en feu.
Elle s'appelle Louisa avec un Z. Et Louisa va sortir le 10 avril son album. Louisa, alors elle vient d'en dévoiler un nouvel extrait qui, je pense, va vous plaire. Ça s'appelle Mania de Carnaval, nouveau single donc de Louisa. Rendez-vous le 10 avril pour l'album et demain soir aux Victoires, évidemment.
Mania, tão bonita, mania. Na vida uma nova canção, cantando só teus olhos, teu riso, tuas mãos. Pois há de haver um dia em que virás nas costas.
Eh bah oui, c'est magnifique, on est d'accord. Hein, Louisa, avec un Z, son premier album éponyme, sortira le 10 avril prochain. Ce sera donc de la pop tropicale. Hommage à ses racines brésiliennes, Louisa, pour qui on croise les doigts. Elle est nommée demain soir aux Victoires de la Musique.
Ici à 20h, toute l'actu musicale est dans Décibel.
Si je vous dis Happy Face et Pia 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 dans ton corps, c'est que et que vous comprenez ce que je veux dire. Par exemple, je vois deux personnes en face de moi. Il y en a une qui comprend, qui rigole, et une autre beaucoup trop jeune qui est là. Quoi? Elle va encore nous parler de Dorothée? Non, pas du tout. Je vous parlais de Popstar en 2001, qui a donné naissance à un groupe absolument incroyable, nommé les L5. Et la chorégraphe des L5, la chorégraphe de Popstar et membre du jury Popstar, c'était Mia Fry, également autrice. Parce que oui, à ce niveau-là, on est autrice de chorégraphie de la Macarena. Mia Fry, qui a aussi chorégraphié Mon Légionnaire de Serge Gainsbourg ou encore les grands spectacles de Jeanne Masse à Bercy. Mia Fry fête aujourd'hui ses 61 ans. On fête ça donc avec une grande Happy Face du Pia 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 dans ton corps et une Macarena du Feu de Dieu. Allez, dansez!
They all want me, they can't have me, so they all come and dance beside me. Move with me, chant with me, and if you're good, I'll take you home with me.
Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
Now don't you worry about my boyfriend, the boy whose name is Vitorino. I don't want him, couldn't stand him, he was no good, so I...
Now, come on, what was I supposed to do? He was out of town, and his two friends were so...
Alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena.
Anniversaire à Mia Fry, donc la chorégraphe, 61 ans aujourd'hui. On lui doit quand même nos meilleures chorés de Macarena. Merci Mia et merci à vous d'avoir écouté Décibel. Merci beaucoup à l'équipe de l'émission. Il y avait Iris Guitoni, Arnaud Loupien, Sarah Bécard, Nicolas Bonzon, Yanis Calem et Franck Moilier. Et n'oubliez pas, demain soir, c'est l'apéro des Victoires en direct des coulisses des Victoires de la Musique avec tous les artistes nommés avant le début de la cérémonie. Rendez-vous à 19h précise sur votre radio ici. Vivement demain.
Ici, le Crédit Mutuel donne le la à la musique.
Ici.
ICI.
Une radio, une appli connectée à notre région.
Il est 21h, merci d'avoir choisi ici.